prise de terre sur la première.
Alors là, on entre dans l'exposition et l'idée de cette exposition, c'est un petit peu comme un cheminement dans un jardin. Donc il y a des pavillons qui ont été réalisés. C'est un cheminement, on part sur les traces du bonheur.
Alors, premier poste, tout de suite, on me demande de me tester. Teste ton bonheur.
Exactement. Donc cette exposition, elle se veut très interactive et tout au long du parcours, on propose aux visiteurs ou aux visiteuses de questionner leur bonheur, de participer, de toucher, de lire, de réfléchir. Et ça commence justement par le test de son bonheur.
Je vais le faire comme ça, juste pour savoir de quoi on parle.
Exactement. Hein.
Je vais faire le test. Alors, je dois appuyer ton bonheur. Hop. Alors là, je dois placer une pochette avec, voilà, que vous avez dans les mains, avec des graines dedans, c'est ça.
Donc après, vous pouvez la garder et vous pourrez planter chez vous, dans votre jardin, dans un pot sur votre balcon ou à l'intérieur, ces petites graines pour avoir un petit peu de nature chez vous.
Ok.
Et donc l'idée, ben voilà, vous posez le petit sachet sur le tableau et là, on vous pose différentes questions pour un petit peu sonder votre bonheur.
Il y a de la joie au pont de la machine à Genève, dans le bâtiment quartier libre des SIG. Il y a de la joie au moins jusqu'au 17 octobre prochain avec l'exposition Global Happiness, autrement dit bonheur global. Car finalement, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Est-ce que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires, comme chantait un certain Souchon, ou est-ce que c'est de l'être, du partage et de la sobriété? Heureuse, la sobriété forcément heureuse. Une exposition ludique et interactive conçue par Helvetas qui questionne nos modes de vie et nous invite à réfléchir sur ce dont nous avons vraiment besoin pour être heureux sans pour autant détruire la planète à laquelle nous devons ce bonheur. Brève visite donc ce matin de cette exposition interactive avec Marion Petrocchi, chargée de communication à Helvetas. Une exposition qui commence d'emblée devant un écran un peu inquisiteur et qui vous invite, en guise de préambule, à mesurer votre degré de bonheur. Une évaluation qui a presque valeur de test puisque, première mise au point, le bonheur, évidemment, bonheur ressenti, est toujours relatif. Il varie selon les cultures, les origines et les individus. C'est parti.
Dans le bonheur, effectivement, il y a des éléments qui sont très personnels et chaque personne va avoir une définition du bonheur différente. C'est aussi lié dans le pays dans lequel on vit, notre culture, notre religion, plein d'éléments. Donc effectivement, si on vit en Suisse ou si on vit par exemple au Tchad, on n'aura pas forcément la même notion et la même définition du bonheur.
Bon, Suisse, suivant. De manière générale, à quel niveau évalues-tu ton bonheur sur une échelle de 0 à 10? Alors ça, c'est mon échelle de bonheur.
Exactement.
Voilà.
10 signifiant que vous êtes très heureuse, 1 que vous êtes plutôt malheureuse.
Encore faut-il définir la notion de bonheur. Mais là, à l'entrée, voilà, moi je mets un bon 8.
Oui, et puis c'est un chiffre qui se situe un petit peu la moyenne des personnes. La Suisse, c'est plutôt à ce niveau-là de l'échelle qu'on se situe.
On est plutôt un peuple heureux, quoi.
Exactement. Et c'est un peu à ce niveau-là que se retrouvent aussi les pays scandinaves ou occidentaux.
Mais non. Alors, ces définitions, comment vous avez déterminé ces différents facteurs, par exemple, de bonheur, tels qu'ils sont inscrits sur ce panneau, avec plusieurs champs d'analyse? On a l'environnement, les situations personnelles, l'environnement social, etc. Tout ça, ça sort d'où?
Alors justement, l'idée c'était vraiment d'ancrer cette exposition en se basant sur des éléments scientifiques, de recherche, et ne pas rester dans un niveau un petit peu plus superficiel. Et donc il y a eu un grand travail de recherche qui a été fait. Et là, par exemple, vous avez évoqué les facteurs de bonheur. Donc on se base sur les recherches d'un psychologue belge, Eric Lambin, qui a justement étudié cette question de bonheur et qui a développé l'idée de facteurs universels de bonheur. Et il en retient 5, on les a regroupés en 4, mais il y a des éléments évidemment de situation personnelle qui vont être très différents selon les individus. Et après, il y a des éléments qui sont liés à l'environnement social, à l'environnement naturel dans lequel on vit et à l'environnement institutionnel, la sécurité dans laquelle on vit, si on a des instances qui fonctionnent, la bonne gouvernance. Et tout ça sont des éléments qu'on retrouve dans la composition du bonheur chez tout un chacun.
Quel que soit le lieu géographique.
Exactement. Après, il y a des niveaux de facteurs qui seront plus importants que d'autres, mais c'est des éléments qu'on retrouve partout.
La recherche scientifique sur le bonheur, suis-je en train de lire, est en vogue depuis les années 80?
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'avant, on ne se souciait pas de savoir si on était heureux ou pas?
Alors, non, je ne pense pas, mais par contre, on l'étudiait moins. Et c'est vrai que depuis les années 80, c'est un domaine de recherche qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup progressé. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se font sur justement cette notion de bonheur. On a les recherches de psychologie positive, on a eu des recherches aussi économiques, toutes les sciences sociales qui se sont penchées sur la question, les sciences environnementales. Et après, il y a beaucoup, comment dire, de domaines qui ont relié leur domaine de recherche à la question du bonheur, à la question du bien-être. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est développé depuis ces 30 dernières années. Justement, au début, c'était difficile de trouver une définition qui représentait ce qu'on voulait montrer dans cette exposition, une définition du bonheur juste, parce que souvent, quand on parle du bonheur, on revient à des choses très personnelles, très individuelles. Et l'idée, c'est qu'on voulait avoir une notion beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte. En faisant des recherches, on est tombé sur les travaux d'une chercheuse canadienne, Catherine O'Brien, qui a une définition du bonheur durable qui correspondait parfaitement à ce qu'on voulait montrer. Et donc, la définition du bonheur durable, c'est que c'est un bonheur qui participe autant au bien-être personnel, collectif que global, et qui ne nuit pas aux autres personnes, ni à l'environnement, ni aux générations futures. Donc, c'est cette idée qu'on peut être heureux, on peut ressentir un bonheur durable et qui est lié, justement, à l'environnement.
Et puis alors, il faut aller derrière parce qu'on va jouer encore, et ça, j'aime.
Et là, voilà, c'est là l'intérêt aussi de cette exposition.
L'idée de jouer.
On pose une question assez simple. Il y a différents bocaux qui représentent différentes thématiques, la surface habitée, le poisson-viande, les emballages jetables, le téléphone, la télévision, les voyages en avion, les habits, la douche. Et ben voilà, on pose la question, qu'est-ce que nous pourrions soit diminuer ou alors soit totalement renoncer sans que ça porte préjudice à notre confort et à notre bien-être.
Tout ça est matérialisé par des objets qui sont placés dans des bocaux. Et il faut mettre des pastilles vertes ou des pastilles rouges selon que l'on peut y renoncer, vert, ou qu'on peut faire des efforts, mais ça sera difficile. Alors on va jouer, mais vous serez mes mains parce que je tiens le micro. Alors, produits laitiers. Alors produits laitiers, non, c'est rouge.
Alors rouge, c'est que vous pouvez réduire.
Oui. Voiture moto, vert.
Complètement se passer.
Oui. Téléphone mobile, ben, dans la vie de tous les jours, alors, aujourd'hui, c'est difficile.
C'est difficile de s'en passer, mais peut-être qu'on peut réduire le nombre d'heures passées devant notre téléphone.
On va mettre du rouge. Alors, les vols en avion, vol court, on met du vert. Température du salon, on met du vert. Imprimante, on met du rouge. Poisson-viande, c'est du vert. Emballage jetable, on s'en passe. Vol long courrier, c'est déjà fait depuis longtemps, on s'en passe. Produits issus d'animaux, alors déjà, on a beaucoup réduit parce que plus de viande, mais quand même, il en faut un petit peu. Alors maintenant, si on regarde ce à quoi les gens ont mis le plus de points verts et de points rouges. Ce qui me saute aux yeux, c'est l'avion sur les vols courts. Là, on a une grande majorité de points verts. Beaucoup de points verts aussi au poste vêtements, donc beaucoup de gens sont prêts à acheter beaucoup moins de vêtements neufs.
Oui, et ça je pense que c'est vraiment une tendance aujourd'hui.
On va rappeler, la confection c'est aussi un impact très important.
Écologiquement et socialement, c'est une industrie très nocive.
Et alors les points rouges, sans surprise, ce qui est difficile c'est de se passer du téléphone portable, de la voiture,
de l'ordinateur. On voit que les produits issus d'animaux, il y a pas mal de rouge. Alors certes, on accepte de diminuer, mais c'est compliqué aussi de s'en passer. Et se doucher aussi. Il y a pas mal de points rouges, mais évidemment, c'est un petit peu compliqué de s'en passer totalement.
Se doucher, ça ne veut pas dire ne pas se laver. C'est...
Tout à fait. On aurait pu aussi mettre les bains, par exemple, qui sont aussi de grands consommateurs d'eau. Mais voilà, ce qui est bien avec ce mur, c'est que du coup, chaque personne peut jouer le jeu, puis peut-être partir avec quelques bonnes nouvelles habitudes.
And then it's looking at how many resources they use. It creates what we would call an efficiency measure. It says how much well-being do you get for your resource use. It's like a miles per gallon, bang per buck indicator.
Et donc là, on arrive dans le pavillon du bonheur global parce que de nouveau, on a aussi cette volonté d'ouvrir sur le monde. Et au début, on parlait justement de cette notion d'échelle du bonheur que les pays occidentaux, scandinaves, suisses placent plutôt en haut de l'échelle et les pays pauvres plutôt en bas. Ce qui est vrai, mais c'est un bonheur qui se fait à crédit, puisque il y a quelques jours déjà, je crois que la Suisse, le jour du renoncement est arrivé. C'est-à-dire qu'on a déjà utilisé toutes les ressources disponibles pour notre consommation. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, nous consommons plus que ce qu'il y a. Donc il faut réfléchir à tout ça, c'est pas possible. Et chaque année, ça
ce jour intervient de plus en plus tôt dans l'année. Oui.
C'est ça. Et donc, ce bonheur se fait à crédit. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la solution. Si nous sommes heureux, nous utilisons beaucoup trop de ressources naturelles pour ce bonheur. Et là, on compare un autre indice un indice alternatif qui est le Happy Planet Index, qui mesure aussi le bonheur des pays, qui reprend le classement, on va dire, du rapport mondial de l'ONU, mais qui y intègre l'empreinte écologique, la protection de l'environnement.
Voilà, donc c'est une map monde qui tourne avec des couleurs.
Et donc les pays en vert, dans cette map monde, sont ceux qui ont réussi à avoir un meilleur équilibre entre bonheur et protection de l'environnement.
Donc on trouve des pays presque, c'est presque étonnant, on voit le Mexique, le Nicaragua.
L'Amérique centrale est très bien.
Ouais,
est
la
très
Colombie, bien la Colombie, la Scandinavie, donc la péninsule scandinave, en particulier la Norvège, l'Albanie.
Oui. Alors c'est étonnant, mais c'est que ça veut aussi dire que les lois, ils doivent avoir une bonne législation en faveur de l'environnement. Il y a aussi des pays pauvres, le Bangladesh, la Thaïlande. Et puis le Vietnam.
Alors par contre, la Suisse, l'Europe globalement sont justement en orange, donc sur la bonne voie, mais peut mieux faire. Et puis quand même, la couleur qui domine encore, c'est le rouge. Le rouge, c'est vraiment situation de crise.
Exactement. Et c'est que du coup, ils ont une consommation qui est encore beaucoup trop néfaste pour l'environnement.
Donc on trouve l'Amérique du Nord, évidemment, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest, l'ancienne URSS,
oui.
Pas mal de pays baltes, et puis l'Australie.
Et
voilà. Et puis en Europe, il y a la Belgique,
qui est toute rouge.
La Belgique qui est toute rouge. Bon, Marion Petrocchi, ici, il y a toutes les clés pour être heureux sur une planète saine.
Oui, il y a tous les éléments. Autant on réfléchit à des aspects plus personnels, plus intimes, autant on réfléchit aussi à de manière plus générale. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que cette exposition, elle est aussi rattachée à la réalisation des objectifs durables de l'ONU. Et donc on montre aussi là, dans tous ces globes que vous voyez, avec une lumière, on représente aussi des avancées. Donc il reste beaucoup de choses à faire, on en est conscient. Mais voilà, il y a plein de petites choses positives qui se passent. Dans l'exposition aussi, on présente des initiatives locales en faveur d'une vie commune plus heureuse, plus solidaire. Et on voit qu'il y a plein de petites initiatives partout dans le monde où les gens s'engagent, sont convaincus et du coup vivent aussi une vie plus heureuse.
C'est une exposition qui est itinérante ?
C'est une exposition qui est itinérante. Elle a été inaugurée en 2019 à Aarau. Elle a été vue ensuite à Vaduz, au Liechtenstein. Et ici, c'est la première fois qu'elle est en Suisse romande à Genève. Elle sera à voir ensuite à Lausanne à partir de novembre 2021. Et puis elle parcourra encore 2-3 autres villes alémaniques jusqu'en 2023-2024.
De quoi rendre heureux plein de gens, quoi.
Exactement, de quoi partager le bonheur.
Global Happiness dans l'immédiat. L'exposition est donc à voir à Genève, sur le pont de la Machine, à l'espace Quartier Libre des SIG, jusqu'au 17 octobre. Et puis allez-y avec vos enfants, tiens, d'abord parce qu'ils sont l'avenir de la planète, et aussi parce que, je vous le disais, l'exposition est très ludique, et ça devrait leur plaire.